soldat devenu le symbole des sévices infligés aux détenus irakiens de la prison d'Abu Ghraib à Bagdad. La photo, elle tient en laisse un prisonnier nu, a fait le tour du monde.
La bourse avec regionjob.com, site internet de recrutement et d'offres d'emploi en région.
La bourse avec à la mi-journée une séance en belle hausse, Antoine Verlin.
Effectivement, Jacqueline, les propos rassurants tenus hier soir par le président de la Fed associés à un fléchissement des cours du pétrole autorisent la bourse de Paris à venir tester de nouveaux plus hauts. Le CAC 40 s'inscrit actuellement en progression de 0,80%. Il est à 4583 points dans un volume d'affaires encore important. Déjà 2,4 milliards d'euros ont été négociés. Sur le marché d'échange, l'euro se raffermit légèrement alors que seront publiées dans une trentaine de minutes les commandes de biens durables enregistrées en août aux États-Unis. Ainsi, aux dernières transactions interbancaires, la pièce bicolore gagne 0,22% à 1,2032$. Concernant les marchés de l'euro premier fixing, l'once recule à Londres de 2,10$ à 462$. Mais je vous rappelle qu'à Paris, le CAC 40 lui est bien orienté, plus 0,80% à 4583 points. C'est Antoine Verlin, la Bourse de Paris pour France Inter.
Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros les minutes. 3230, France Inter au bout du fil.
Et puis le résultat très vite de la première course à Lisieux, combinaison gagnante du Quintet Plus, 8, 15, 18, 17 et 16. 14h03 sur France Inter, Patrice Gélinet, 2000 ans d'histoire.
Merci Jacqueline et bonjour à tous. Aujourd'hui, troisième et dernière partie de notre série d'émissions sur la police, de Georges Clémenceau à Nicolas Sarkozy. S'il n'y a point de nation qui ne connaisse l'utilité de la police, il n'y en a pas non plus qui lui accorde de l'estime. Joseph Fouché. D'histoire. Depuis Louis XIV, qui en avait fait l'instrument de son pouvoir, la police a survécu à toutes les révolutions et servi loyalement tous les régimes, pour le meilleur et pour le pire. Mais si elle a depuis beaucoup changé, elle a toujours gardé les mêmes missions, faire respecter la loi, assurer la sécurité des citoyens et maintenir l'ordre public. Bras armé de la société, chargé à la fois de surveiller et de punir, la police est aussi, avec l'armée, la seule institution à pouvoir utiliser légitimement la violence. Et c'est pourquoi, si personne, à part les anarchistes, n'a jamais contesté son utilité, il n'y a pas grand monde non plus, disait Fouché, pour lui accorder de l'estime. C'est toute la difficulté d'un des métiers les plus ingrats et les plus brocardés de France.
Oui, je sais, j'ai l'air un peu con. Non, mais l'uniforme est pour beaucoup. Hein. Non, parce que ma femme me dit toujours, t'as signé sans réfléchir. Et j'ai demandé aux autres, ils ont fait pareil. Hein. Si on avait réfléchi, on n'aurait pas signé, faut pas nous prendre pour des cons. Hein. La police, c'est trop ingrat comme métier. C'est vrai, c'est ingrat la police. Parce que, par exemple, parce que je vois, parce que les gens, ils nous aiment pas. C'est con, hein, parce que nous, on est là pour les protéger, hein. Eh ben, remarquez, les gens, plus il y a de flics autour d'eux, plus ils ont peur. Je vois, parce que, par exemple, il y a les gens, ils disent, la police, c'est un refuge pour les alcooliques qu'on n'a pas voulu à la SNCF et au PTT. Eh ben, je vais vous dire, franchement, c'est exagéré.
Jean-Marc Berlière, bonjour.
Bonjour.
Alors c'était bien sûr Coluche, il y a 30 ans, se moquant d'une police hein, qui est sans doute avec l'Église l'institution la plus brocardée en France, une des plus impopulaires aussi, vous le rappelez, dans un livre collectif dont nous parlons depuis avant-hier, Histoire et dictionnaire de la police, qui vient de paraître chez Robert Laffont. Police impopulaire, est-ce que ça a toujours été le cas?
Oh, je crois qu'on gagnerait...
Est-ce que ça l'est aujourd'hui, par exemple? Parce que Coluche, aujourd'hui, c'est pas, ça a pas un peu vieilli?
Bah écoutez, je pense qu'à l'heure actuelle, effectivement, voir des policiers nombreux quand on est dans une situation, une station de RER la nuit en difficulté, je crois qu'on serait assez content de voir ces policiers assez nombreux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on gagnerait du temps à chercher les moments où la police était populaire, effectivement, parce que personne n'aime les gens qui sont chargés de vous rappeler les règlements, la loi, et c'est toujours fort désagréable. Et c'est vrai, Coluche a parfaitement raison, il le dit de façon désopilante puis un petit peu sévère, mais c'est un métier extraordinairement ingrat, puisque des gens qui sont effectivement chargés de protéger des citoyens rencontrent l'hostilité ou l'incompréhension de ces citoyens. Soit il y a trop de policiers, ils sont trop présents, soit ils ne sont pas là quand on les attend.
Puis ça dépend évidemment, je suppose, des polices. Il y a celles que l'on voit dans la rue, en uniforme, chargées du maintien de l'ordre, que ce soit en 68, aujourd'hui même à Bastia. Puis alors il y a celles qu'on ne voit pratiquement qu'au cinéma, la PJ du commissaire Maigret, pour laquelle on a toujours un peu plus de tendresse, la police judiciaire.
Bien sûr, Clémenceau, qui est quand même l'un des seuls hommes politiques à avoir eu une véritable conception de la police dans une démocratie, on est au début de la Troisième République, avait parfaitement compris que la police, la seule qu'une démocratie puisse avouer, disait-il dans un discours célèbre, c'est celle qui apporte la protection, celle qui apporte la protection des personnes et des biens. Et celle-là, disait-il, qui est justement insuffisante.
La judiciaire qui est chargée de justement de chercher les criminels, parce que on s'y perd un peu, y compris en lisant ce livre, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce livre, il y a tout dans ce livre sur la police, c'est la première fois qu'un livre aussi complet puisse être écrit sur la police, mais en même temps on constate qu'il y a des polices, il y avait en 1934 en pleine affaire Stavisky, il y avait un inspecteur général qui écrivait dans un rapport: existe-t-il une police en France, une police nationale rationnellement conçue? Non, il y a des polices sans liaison entre elles, créées pour les besoins de la cause et qui n'ont pas de rapport entre elles. Et c'est vrai que parfois on se demande qui commande quoi, quelle est la police chargée de ci ou de ça. C'est extrêmement complexe, l'organisation de la police, surtout avant sa réunification, on en parlera en 66.
L'inspecteur général Plitas, donc, que vous citez, effectivement, en 1934, en fait, stigmatise un grand principe qui est né de la Révolution, qui était une garantie contre l'usage qu'aurait pu faire de la police un pouvoir autoritaire, despotique, en fait, c'était le roi à l'époque qui était visé, c'est-à-dire qu'on a donné à l'époque les pouvoirs de police aux municipalités. Et donc, jusqu'en 1941, loi de Vichy, les polices, pour l'essentiel en France, sont dans la main des maires, c'est-à-dire qu'il y a autant de polices en France qu'il y a de villes de plus de 5000 habitants. Et la seule structure que dirige directement le ministre de l'Intérieur via ce qui s'appelle la direction de la Sûreté Générale, on va l'appeler nationale en 1934, eh bien, c'est quelques centaines de policiers, les uns dit des renseignements généraux, c'est-à-dire avec une mission politique, ils sont 400 ou quelque chose comme ça, et les autres, ce sont ces fameuses brigades mobiles qu'on a appelées dans les années 20 les brigades du Tigre, celles qui sont nées justement en 1907, que Clémenceau trouve insuffisantes, et qui sont chargées de la police judiciaire sur la totalité du territoire. Car imaginez un peu le problème, vous aviez des polices dont le ressort s'arrêtait aux limites de la ville, c'est-à-dire qu'un délit commis, leurs auteurs s'enfuyant, eh bien, la police était complètement désarmée. Seule la gendarmerie avait un ressort national.
Sans compter, jusqu'à il y a peu de temps, le statut particulier de la ville de Paris et de sa préfecture. D'où à partir des années 30, donc une volonté d'unifier les polices, ce qui va voir le jour, hélas, vous le disiez à l'instant, au moment le plus dramatique de l'histoire de la police, lorsqu'à partir de 1940, elle a collaboré avec l'occupant quand le secrétaire général de la police, René Bousquet, rencontrait à Paris le bras droit de Himmler. C'était en mai 42, quelques semaines à peine avant la grande rafle du Veldiv.
Paris. Arrivée de M. Heydrich, général des SS, chef de la Sûreté, représentant du Reich à Prague, chargé par le chef des SS et de la police allemande, M. Himmler, d'installer dans ses fonctions M. Oberg, général de division des SS et de la police en territoires occupés. Le général a profité de son séjour à Paris pour recevoir M. Bousquet. Heydrich a également pris contact avec M. Dartier de Pellefoy, qui vient d'être nommé commissaire général aux questions juives, ainsi qu'avec M. de Brinon.
Et c'était donc le SS Reinhard Heydrich rencontrant le secrétaire général de la police de Vichy, René Bousquet, quelques semaines avant la grande rafle du Vel'd'Hiv. Une rafle, vous le rappelez, Jean-Marc Berlière, qui a été faite non pas par des SS, hein, on aurait pu l'imaginer, mais par une police qui a collaborer dès le début. Pourquoi est-ce que, bon, on verra qu'il y a une résistance aussi, mais tout simplement parce qu'elle est fidèle au régime légal, sinon légitime, c'est-à-dire Vichy.
Alors, d'une part, les policiers sont les victimes, si j'ose dire, de leur culture d'obéissance, de leur loyauté à l'égard d'un régime qui est légitime, et donc, effectivement, ils obéissent à Vichy.
Et moi, si... je sais la différence entre légal et légitime.
Et si
peut-être que la légitimité était à Londres.
Il faut s'appeler René Cassin pour aborder ce genre de problème dès les années 40. Hein. La plupart des gens, le 10 juillet 1940, Pétain reçoit les pleins pouvoirs, ouais. Y compris celui de modifier la Constitution, donc de tuer la République, d'une majorité de parlementaires de la Troisième République, des députés, des sénateurs, dont 80 seulement votent non. Ce que je voulais juste corriger, c'est qu'en réalité, on ne peut pas parler de collaboration de la police, puisque à partir de là, c'est justement qu'on ne comprend pas ce qui se passe, et c'est beaucoup plus subtil que ça. Toute la politique de Vichy, et c'est ça qui est le paradoxe, vise, faut comprendre ce qu'est Vichy, c'est un pouvoir, c'est un gouvernement qui dirige un pays occupé aux deux tiers, c'est un régime qui est privé de la plupart de ses droits régaliens, sauf la justice et la police. Et donc, toute la politique de Vichy, c'est de démontrer sa souveraineté, la réalité, l'efficience de son pouvoir. Donc, comme Vichy ne dispose que de la police, eh bien, Vichy va réclamer sans cesse l'exercice de la répression.
Et pour que les Allemands ne le fassent pas, c'est un peu spécieux comme argument. Jean-Marc Berlière, c'est parce que si elle est fidèle au régime de Vichy, le régime de Vichy a décidé, nommément, c'est Pétain qui le dit, de collaborer avec l'Allemagne. Donc c'est la politique de Vichy, c'est la politique de collaboration. C'est pour ça que j'ai dit qu'elle collabore.
Oui, bien sûr, mais paradoxalement, et j'y reviens, donc, ouais. C'est que c'est au nom de l'autonomie de la police française, c'est la politique de Grimaud, je suis bien d'accord avec vous, que Bousquet va négocier avec Heydrich, puis quand Heydrich est tué, avec le chef des SS en France qui s'appelle Auberg. Et l'enjeu pour Bousquet, c'est de dire la police française est autonome, les Allemands ne donnent pas d'ordre. Et le paradoxe, il est là, et c'est ça le crime monstrueux de Vichy, c'est donc pour démontrer aux Allemands, à l'occupant, à l'ennemi quand même, que cette police française, elle peut être loyale, fidèle, efficiente, efficace, eh bien, on va faire à la place des Allemands les opérations, le sale boulot, et le test même de la bonne volonté de Bousquet, de la bonne volonté de la police française, c'est la rafle, les rafles de juifs à l'été 1942.
Sans parler de la présence de la gendarmerie dans les camps de Pithiviers de Beaune-la-Rolande, la création aussi de nouveaux services adaptés, si je puis dire, aux circonstances, et que vous mentionnez dans votre livre, Jean-Marc Berlière, le SPAC, Service de Police Anticommuniste, le SSS, hein, ils ont été chercher ça, Service des Sociétés Secrètes contre la franc-maçonnerie, la PQG, la Police aux Questions Juives, et puis alors aussi les GMR, Groupe mobile de réserve qui était chargé de la lutte contre la résistance, entre autres, on les verra dans les maquis du Vercors, en train d'essayer de lutter contre les maquis.
C'est une force civile de maintien de l'ordre. Les Allemands ont imposé une petite armée d'armistice, donc la gendarmerie mobile perd la plus grande partie de ses effectifs. Donc Vichy croit financer, jouer au plus fin, en créant une force qui est quand même casernée, qui est embrigadée, qui est en uniforme, mais qui est civile. Mais j'aimerais une nouvelle fois quand même revenir. Vous avez bien fait de citer toutes ces polices dont vous parlez, mais remarque importante, ces services que vous avez cités, le SSS, la PQJ, etc., ce ne sont pas les policiers, ce sont des polices parallèles, des officines parapolicières créées par Pucheux, parce que Vichy, héritant d'une police républicaine, a émis quelques doutes sur l'enthousiasme que mettraient ces policiers et cette police républicaine dans des missions quand même sortant franchement des habitudes, et par exemple arrêter des gens dont le seul délit était la religion des grands-parents.
Alors il y avait aussi, vous le rappelez, Jean-Marc Berlière, une résistance dans la police. D'ailleurs, il y a eu une épuration hein, en 1940. Évidemment, on a éliminé tous les éléments qui pouvaient être hostiles au maréchal Pétain. La police va avoir une résistance qui perdra d'ailleurs plus de 200 morts, dont les trois Boiscard, tué en août 44 quand la préfecture de police est éteindée au lieu de la libération de Paris.
Dès que la fusillade a commencé dans le boulevard Saint-Michel, les SFI, à qui l'alerte avait été donnée, ont pris leur position de combat à l'entrée de la préfecture de police, boulevard du Palais. Nous apercevons, de la fenêtre du préfet de police, des canons allemands brûlés même sur la place Saint-Michel, devant la fontaine. Et tandis que dans le boulevard du Palais, des SFI construisent un fortin en sac de sable, sur la place Saint-Michel et le long du boulevard, les canons sonnent violemment.
C'est une fleur de chez nous, elle a fleuri de partout, car c'est la fleur du retour des beaux jours. Pendant 4 ans, dans nos cœurs, elle a gardé ses couleurs. Le blanc, rouge, elle était vraiment avant tout fleur de chez nous.
Dans les Chevaliers en 1944, fleur de Paris, l'année où précisément de la libération de Paris, avec ce haut lieu de la libération qui a été la préfecture de police, mais une police qui va être quand même très épurée, on s'en doute. Je crois 7000 fonctionnaires ont été exclus de la police, je crois, à ce moment-là, Jean-Marc Berlière.
Oui, la police n'a pas tellement d'autres, les policiers n'ont pas d'autre solution que de participer à l'insurrection, hein, bien sûr. C'est à la fois un rachat, puis c'est une prudence, parce qu'ils savent bien qu'ils ont incarné pendant 4 ans la visibilité de la collaboration. Ils ont arrêté des juifs et tout le monde, personne ne peut l'ignorer. Donc ils se jettent dans les combats de la libération avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'imprudence. Près de 150 d'entre eux y laissent leur vie. Et cela n'empêche pas ce rachat, une terrible expiation. On a toujours l'impression, vous savez, on dit toujours la police demeure, les gouvernements changent, etc. En fait, ce ne sont pas les mêmes policiers.
L'institution est restée, mais...
Il y a une énorme épuration, vous faites bien de le souligner. Elle est beaucoup plus forte, beaucoup plus longue, beaucoup plus profonde que le général de Gaulle ne le souhaitait, qui était bien conscient qu'il ne fallait pas démoraliser les policiers ni déstabiliser une institution aussi puissante.
Ah, oui.
Et elle est d'autant plus forte, et c'est très curieux, que ce sont les policiers eux-mêmes qui poussent à ce que cette épuration soit la plus forte possible.
Il y a quand même eu beaucoup d'indulgence pour certains. Moi, je pense par exemple à Bousquet.
Alors d'abord, Bousquet, bien sûr, n'est pas un policier. C'est
le secrétaire général de la police.
Oui, non, bien sûr. Deuxièmement, il est en Allemagne. Il ne revient qu'après avril 1945. Et en outre, Bousquet ne dépend pas de ces comités d'épuration qui étaient d'une extrême violence. Il est jugé par la haute cour, et en plus il a l'habileté d'être jugé le dernier, et en 1947-48 les circonstances sont très différentes.
Alors la police est épurée, elle voit aussi disparaître tous les services qu'on a cités tout à l'heure et qui ont collaboré. Il y en a un quand même qui reste, ce sont les fameux groupes mobiles d'intervention qui ne font que changer de nom, je crois. C'est devenu les CRS, les compagnies républicaines de sécurité.
Alors, la création des CRS était un phénomène passionnant, puisque justement, il permet de mesurer la réalité des passages, des transitions, des changements, des ruptures. 60% des compagnies républicaines de sécurité sont effectivement, 60% des effectifs sont constitués par d'anciens GMR, c'est-à-dire des gens de Vichy. D'ailleurs, pendant longtemps, ils portent encore des uniformes avec des boutons, avec la francisque, etc. Ouais. La création des CRS, c'est une extraordinaire opération de poker menteur entre De Gaulle et les communistes. Les communistes qui veulent pénétrer une citadelle de l'État qu'est la police, et notamment celle des forces de l'ordre, et De Gaulle qui pense que c'est un moyen de les compromettre. Et on verra effectivement, 1947, une partie des CRS les plus communistes d'entre eux, eh bien, impliqués dans la répression des grandes grèves de 1947-1948, être destitués parce qu'ils refusent de marcher contre les grévistes.
Oui, parce que c'est aussi peut-être l'élément le plus impopulaire, parce qu'il fait le plus sale boulot, au fond de la police dont ils font partie. Les CRS, on verra ça, il y a bien sûr les grèves, vous le mentionnez, il y a aussi bien entendu la répression, la lutte contre les manifestations, je pense évidemment à celle contre les grenades de Chine, contre en Algérie. Alors je ne sais pas si c'est les CRS, mais Charonne par exemple, en 61 aussi, ça c'est en tout cas c'est la police, en 61, le octobre 61, un massacre oublié, celui quand même des gens du FLN qui défilaient dans les rues.
Votre remarque remarque est à nouveau très intéressante. En réalité, donc, si vous voulez, tout ce problème du maintien de l'ordre, depuis le début de la Troisième République, on s'arrange pour qu'il soit le moins meurtrier possible. Ça n'empêche pas des bavures ou autres. Il y a une professionnalisation des forces de l'ordre. Les CRS arrivent après les gendarmes mobiles qui, les premiers, dès les années 20, ont essayé de mettre au point un répertoire des tactiques qui agressent plutôt les sens que les corps. On a quand même un maintien de l'ordre beaucoup moins meurtrier dans ces années-là qu'il ne l'était, par exemple, au XIXe siècle. Et Charonne et le massacre des Algériens en octobre 1961, c'est justement pas des CRS, ce ne sont pas des professionnels du maintien de l'ordre, ce sont ces fameuses compagnies de district de la préfecture de police, c'est-à-dire des gens qui d'un seul coup se retrouvent avec des missions de maintien de l'ordre auxquelles ils ne sont absolument ni entraînés ni préparés. Ce sont eux aussi qui tuent Malik Oussekine, dernier manifestant mort à Paris.
En tout cas, les CRS, on les reverra 6 ans après Charonne, et le 17 octobre 61, au moment de la répression du mouvement de mai 68, qui rendra d'ailleurs tellement impopulaire qu'ils seront comparés à des SS, à l'endroit même d'ailleurs où la police participait 24 ans plus tôt à la libération de Paris.
Les policiers continuent de ratisser le boulevard Saint-Michel. Ils s'engouffrent dans la rue Cujas. Ils ratissent vraiment à coups de matraque.
Attention, attention François, il y a un pavé.
Les policiers se sont retranchés derrière leur car. Ils se protègent avec leurs boucliers.
Nous sommes derrière, les gardes mobiles, ça pleut dans tous les sens. C'est épouvantable, ce sont des dizaines, des centaines de cailloux, de pavés qui volent maintenant. Des voitures se rembrouillent. Aïe la vache, pousse-toi. Mais je viens de voir juste devant moi un policier qu'on emmenait, qu'on traînait, qui avait la figure en sang. Je suis au milieu du boulevard Saint-Germain, reculez.
Depuis 200 générations, si j'ai souvent commis les fautes, on me donne tort ou raison de grèves en révolution. Je n'ai fait que penser aux autres, pareil à tous ses compagnons qui le charonnent à la nation. En ont vu défiler par ordre des pèlerines et des bâtons sans jamais rater l'occasion de se faire casser la gueule.
Jean Ferrat, en groupe, en ligue, en procession, une chanson de 1967, un an avant les barricades de 68, pendant lesquelles vraiment la police a atteint, l'impopularité de la police a atteint des sommets. Jean-Marc Berlière, dans un des articles, parce que c'est un livre collectif du livre, l'histoire éditionnaire de la police, Charles Diaz rappelle aussi quand même que d'une certaine manière, là encore, et ça peut surprendre aujourd'hui les anciens 68ards, mais la police a fait preuve d'un énorme sang-froid, ça aurait pu être tragique. D'ailleurs, le préfet de police Grimaud a joué un rôle plutôt apaisant dans cette affaire.
Un rôle de modérateur, et il tient un discours extraordinaire, il envoie une circulaire aux forces de l'ordre en disant « frapper un manifestant à terre, c'est se frapper soi-même, et c'est jeter l'opprobre sur toute une... » Alors, il y a un mort parmi les manifestants dans le ressort de la préfecture de police en mai 68 à Paris, c'est bien sûr à mort de trop, c'est scandaleux, mais qu'on imagine à quel point, vu la violence des affrontements, les choses auraient pu tourner. Juste un petit point de détail, j'ai revu, parce qu'on vient de faire un certain nombre de films sur l'histoire de la police, ces événements, pratiquement il n'y a jamais de CRS. Je vois soit des gendarmes mobiles, qu'on reconnaît bien avec leurs culottes galonnées, et soit justement des forces spéciales de la préfecture de police.
De nombreuses victimes, du côté de la police aussi, il y a eu 2000 blessés, le premier mort d'ailleurs a été un policier à Lyon qui a été tué. Alors cela dit, on oublie aussi une chose, c'est que 2 ans avant, la police a connu peut-être la plus importante de ses réformes. Elle est enfin réunifiée, c'est à peu près selon la configuration qui existe aujourd'hui, un directeur général à la tête d'environ 150 000 fonctionnaires, je crois, oui, Jean-Marc Berlière, 8 directions, l'administration, la formation, la police judiciaire, on en a parlé, la sécurité publique, celle qu'on voit partout, c'est la police en uniforme, la DST, la surveillance du territoire, la police des frontières, les renseignements généraux, les CRS, tout ça unifié, ça, c'est la première fois. fois que ça se produit, la police devient vraiment nationale.
Oui, elle n'est pas réunifiée, effectivement. Elle est enfin unifiée. C'est un vœu des policiers depuis des décennies. Et juste pour l'anecdote, il faut savoir que cette police éclatée entre plusieurs entités, la gendarmerie, la préfecture de police, et ce qui deviendra un jour la sûreté, peu importe, on le doit à Napoléon. Tout centralisateur qu'il était, unificateur, il avait très bien compris qu'il fallait diviser les forces de l'ordre pour diviser un pouvoir terrifiant quand il appartenait à un seul homme. Et à l'époque, quel homme? C'est Fouché.
Alors unifié, confronté aussi, vous le rappelez, à de nouveaux problèmes, de nouvelles difficultés, une délinquance qui n'a cessé d'augmenter, le terrorisme international, une nouvelle criminalité, par exemple la pédophilie dont on parle beaucoup, même si elle existait bien avant, et des problèmes contre lesquels tous les ministres de l'Intérieur et les premiers ministres fournissent des moyens supplémentaires à la police. France Inter, Philippe Habitboul, le 10 juillet 2002.
France Inter.
Conseil des ministres chargé ce matin à l'Élysée où Nicolas Sarkozy présentait son projet de loi de programmation sur la sécurité avec une enveloppe riche de plus de 9 milliards d'euros. On écoute Nicolas Sarkozy au micro de Sonia Princé, le ministre pour qui sécurité rime avec liberté.
La sécurité des Français, c'est la première des libertés. Et il convient de les rétablir. De rétablir cette liberté, c'est tout simplement de ne pas avoir peur pour soi-même ou pour ce que l'on aime dans l'exercice de la vie quotidienne. Nouveaux moyens, nouvelle stratégie, nouvelle organisation. La réforme est en marche et nous serons jugés sur les résultats. Et c'est bien les résultats que nous devons obtenir maintenant.
La sécurité, la première des libertés, c'est beau, mais c'est pas nouveau, hein. Déjà, en 97, votre livre le rappelle, Jospin disait, la sécurité garante des libertés est un droit fondamental. En fait, c'est un problème qu'on se pose depuis la naissance de la police. C'est le grand problème, hein. Comment garantir l'une et l'autre en même temps?
La déclaration du mois d'août 1789, connue sous le nom de Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, précise au nombre des quatre grands droits de l'homme, la sûreté, c'est-à-dire effectivement, et Clémenceau, on va y revenir, ça va faire plaisir à Nicolas Sarkozy, eh bien, en 1907, déclare que la police, son rôle, c'est d'apporter ce premier des bienfaits à la population, qui est effectivement la possibilité de se promener en pleine nuit sans être attaqué. Il faut imaginer ce qu'était l'ambiance à Paris. Bien sûr que non.
Mais
non,
même...
On reprend une question récurrente et fondamentale. Hein. Le préfet Lépine, dont nous n'avons pas parlé, mais qui était aussi une autre grande figure policière du début du siècle, disait le rôle de la police dans une démocratie, c'est de défendre la liberté contre ses propres excès.
Mais si on le répète tout le temps, c'est que c'est pas toujours réussi.
Et c'est surtout, je pense, que les gens n'en sont pas totalement conscients et convaincus.
Ils veulent de plus en plus de sécurité avec de moins en moins de police.
Ils ne sont pas prêts, effectivement, à en payer le prix, parfois.
Merci, Jean-Marc Berlier, d'avoir conclu cette série d'émissions sur l'histoire de la police en France. Et pour en savoir plus, parce que ça a été trop rapide, en une heure et demie, trois fois une demi-heure, je vous recommande la lecture de ce livre, qui est vraiment inédit, nouveau. On n'a jamais fait ça, en tout cas, de manière aussi exhaustive. Histoire et dictionnaire de la police, qui vient de paraître chez Robert Laffont, et dont vous êtes un des auteurs, Jean-Marc Berlier. À voir également une série de 4 documentaires, Policiers sous l'occupation, sur la chaîne Toute l'Histoire. Je crois que vous en êtes également l'auteur. 4 documentaires diffusés chaque samedi à 18h15 à partir du 8 octobre. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute, tout sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Stéphane Devernet et Edwin Caron, documentation Archivina et RTL, car les manifs de 68 c'était des archives RTL, Radio France, enfin l'ORTF était en grève. Donc cette documentation et ces archives ont été réunies par Claire Tesser, Camille Pouche-Jalaguier, Sandra Escamez et Caroline Chausset, et réalisées par Anne Kobilac.